Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, état d'urgence, l'exception qui confine la règle. Bonjour François Saint-Bonnet.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes historien du droit, professeur d'université à Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez notamment publié, c'était chez Gallimard en 2017, « À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État ». 100 km à vol d'oiseau, voilà donc le périmètre au sein duquel nous pouvons nous déplacer jusqu'à nouvel ordre. Le simple fait de sortir de chez soi pour faire ses courses ou se dégourdir les jambes ne nécessite plus de se munir d'une attestation. Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun publics. Le régime de l'état d'urgence sanitaire a été assoupli depuis le 11 mai, mais il reste en vigueur sur le territoire jusqu'au 10 juillet. La loi a été adoptée par le Parlement avant d'être validée avec de menues réserves par le Conseil constitutionnel. Toutes les conditions de la légalité sont donc réunies. Mais cet état d'urgence sanitaire n'en soulève pas moins un certain nombre de questions quant au régime d'exception qu'il met en place. En restreignant certaines libertés individuelles, à commencer par celles liées à la capacité de se déplacer, en permettant des réquisitions de biens et de services, en prolongeant les délais de la détention provisoire, l'état d'urgence sanitaire remet en cause un certain nombre de règles. Alors certes, il le fait de manière temporaire, mais le passé nous enseigne que d'autres états d'urgence ont fini par inscrire dans le droit commun des mesures dérogatoires. Ce fut le cas fin 2017, lorsque l'état d'urgence consécutif aux attentats de novembre 2015 fut levé. Alors état d'urgence, l'exception qui confine la règle, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, François Saint-Bonnet, et en compagnie des auditrices et des auditeurs France Culture que je suis ravi de retrouver à cette heure-ci après quelques semaines de rediffusion. François Saint-Bonnet, toute première question, l'état d'urgence sanitaire, est-ce que c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire institutionnelle française?
Sous la forme d'un état d'urgence, c'est inédit, mais les mesures prophylactiques, c'est-à-dire des mesures organisées par un système politique pour éviter la propagation d'une épidémie, c'est quelque chose qui est à peu près aussi vieux que l'épidémie. En réalité, pas tout à fait, parce que ça commence seulement au XVIe siècle. Auparavant, il y avait une déconnexion du politique et de l'épidémique. Mais quand on a compris que, en prenant un certain nombre de mesures, on pouvait agir, eh bien, on a utilisé les mesures de quarantaine. On parle des lazarets à Marseille ou d'autres mesures de réquisition. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans notre histoire, et sur le temps long, eh bien, les mesures qui étaient liées à la prophylaxie, c'est-à-dire éviter que se propage l'épidémie, n'étaient jamais considérées comme des mesures d'exception. Quand on lit les ouvrages de droit du 19e siècle, eh bien, on voit dans les pouvoirs du maire toutes sortes de mesures de police pour lutter contre les épidémies et les épisodes aussi. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui on considère que pour prendre des mesures comparables, même si c'est à l'échelle nationale alors qu'auparavant c'était plutôt à une échelle locale, pour prendre ce type de mesures, pourquoi faut-il rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'urgence ou de l'état d'exception? Il me semble que la clé de compréhension du phénomène, c'est, si vous voulez, l'irruption depuis les années 1980 et surtout 2000 de l'état de droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère que toute mesure qui doit être envisagée par l'État doit avoir une base légale et très solide, et que tout citoyen peut contester toute mesure adoptée par l'État devant un tribunal. Et on voit d'ailleurs qu'il est assez singulier de constater que l'état d'urgence sanitaire, en réalité, a eu quelques fragilités. Au tout début, hein, le décret du 16 mars, eh bien, certains juristes ont considéré que sans le recours à l'argument des circonstances exceptionnelles qui est développé par le Conseil d'État, eh bien, il était tout simplement illégal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement s'est empressé à la hâte, hein, de manière très 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 rapide, en quelques jours, de bricoler cette loi d'état d'urgence sanitaire en la calquant, pour ainsi dire, sur l'état d'urgence normal ou l'état d'urgence de la loi de 55, l'état d'urgence notamment antiterroriste.
Ça veut dire, pour vous, oui, François Saint-Bonnet, que finalement finalement, le fait d'avoir décrété cet état d'urgence sanitaire, d'être passé à deux reprises par le Parlement et par la loi, c'est une façon d'encadrer des mesures qui avaient déjà, alors dans d'autres circonstances bien sûr, pu être prises, mais qui ne bénéficiaient pas de cet encadrement juridique ?
Il y avait un encadrement juridique, mais comme il n'y avait pas d'accès des citoyens aux tribunaux, eh bien, on n'allait pas attaquer son maire parce qu'il vous demandait de vous confiner lors de l'épidémie de 1821, pour vous le dire comme ça. C'est, je crois, à la fois le progrès de l'état de droit qui permet à chacun de pouvoir contester les décisions devant un tribunal, et quand eh bien il y a des mesures qui effectivement sont liées à une menace particulière, eh bien alors il faut faire cohabiter deux droits, le droit des circonstances normales et un autre droit dont on va considérer que sa manière de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux est proportionnée à l'objectif que l'on poursuit, qui est l'objectif ici de lutter contre une épidémie. C'est ce qu'on appelle le fameux, nous les juristes, on appelle ça le fameux test de proportionnalité que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État réalise de manière extrêmement commune. C'est est-ce que la mesure est adaptée, est-ce que la mesure est nécessaire, et est-ce que la mesure est proportionnée. Et si elle porte atteinte à une liberté, mais qu'elle respecte ces trois standards, alors elle est conforme au droit positif, même si elle est attentatoire à des libertés qui eussent été mieux protégées s'il n'y avait pas eu cette menace.
Alors adaptée, nécessaire et proportionnée, est-ce que c'est le cas d'un point de vue juridique aujourd'hui, et quels sont les contre-pouvoirs, contre-pouvoirs politiques et contre-pouvoirs juridiques, disons François Saint-Bonnet, qui permettent de s'en assurer? Ou bien est-ce qu'on est aujourd'hui, étant donné l'urgence qu'il y a eu à prendre un certain nombre de mesures, notamment pour protéger la population, est-ce qu'on est dans un certain flou encore aujourd'hui en ce début du mois de mai?
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 11 mai dans cette décision. Il a considéré que beaucoup de choses étaient proportionnées, que quelques aspects étaient mal proportionnés, hein, en particulier la question de la quarantaine ou des mesures d'isolement ou des questions de données médicales et personnelles. Donc il a un petit peu réajusté le tir, mais de manière générale, le Conseil constitutionnel considère que l'action conduite par le gouvernement est proportionnée, en particulier parce que on introduit l'accès à un juge, en particulier pour les mesures d'isolement qui sont assimilées à des mesures privatives de liberté. Mais si vous voulez que le Conseil constitutionnel, qui est composé de gens très sages et très très éminents, considère que la chose est proportionnée et adaptée, tout ça est très bien. Enfin, il n'y a pas à le critiquer en soi du point de vue du droit positif. Mais remarquez tout de même que l'argumentation du Conseil constitutionnel est quelquefois un petit peu courte, et que ces trois mots adapté, nécessaire et proportionnés sont assez souvent, je dirais, des arguments d'autorité. Qu'est-ce qui est adapté? Eh bien, ce que je dis qui est adapté. Qu'est-ce qui est nécessaire? Eh bien, ce que je dis qui est nécessaire. Donc, je suis de ceux qui font confiance plutôt au Conseil constitutionnel, mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'il serait souhaitable que dans ce fameux test de proportionnalité, ils aient une argumentation un petit peu plus développée qu'une simple manière d'argumenter à partir d'une présentation un petit peu « c'est comme ça, nous avons dit que c'était proportionné, alors c'est proportionné ».
Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a peut-être au sein de la société une forme de fatalisme par rapport à cet état d'urgence sanitaire, une confiance qui pourrait peut-être être une confiance excessive? Vous allez publier, je crois, prochainement dans la revue Éthique, Politique et Religion, un article qui s'appelle « L'état d'exception peut-il être permanent ?» Et j'ai relevé notamment cette phrase que je trouvais très intéressante. Vous écrivez « Le danger vient plus de ceux sentinelles de la société et institutions de contrôle qui se laissent subjuguer ou assoupir que des dirigeants politiques qui auraient fait de l'état d'exception le nouveau paradigme de leur art de gouverner ».
Il me semble que dans la problématique que vous abordez ici, il y a un point très important qui est la question de la magie des mots quand il est question d'exception ou quand il est question d'urgence. L'état d'urgence est quelque chose qu'on peut comparer à une drogue, et une drogue plutôt assez dure, c'est-à-dire une drogue qui produit un phénomène d'addiction assez rapide. Pourquoi ? Bien parce que le mot urgence est à la fois rassurant, par lui-même, on a l'impression que le pouvoir agit, alors que le fait d'entrer dans un état d'urgence n'est pas une action à proprement parler, mais un cadre juridique. Donc on a l'impression que le gouvernement agit, donc ça rassure plutôt, mais en même temps, c'est quelque chose qui inquiète, parce qu'on se dit, mon Dieu, eh bien, mes libertés vont être limitées.
Cette inquiétude, elle est plutôt justifiée, puisque, en l'occurrence, et chaque fois qu'il y a des états d'urgence, les libertés sont confinées.
Absolument, mais vous avez parfaitement raison. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a le sentiment aussi, pas moi, parce que je connais bien ces questions-là, mais je crois que la société a aussi le sentiment que si on sortait de l'état d'urgence, alors le gouvernement ne ferait plus rien, alors que les mesures qui sont adoptées ne sont plus des mesures d'urgence. Je vais vous donner un exemple. Après la séquence 2015, il y a eu des mesures d'état d'urgence pendant à peu près 5-6 semaines avec un flot absolument massif de perquisitions et des assignations en résidence. Voilà. Ensuite, à partir de janvier 2016 et jusqu'en octobre 2017, pratiquement, il y avait un nombre très très limité de perquisitions et d'assignations à résidence. Mais l'état d'urgence demeurait comme une potentialité et les gouvernants, et j'en ai parlé avec certains d'entre eux, disaient « mais si on quittait l'état d'urgence, que ne nous aurait pas dit l'opposition ? » Et on aurait dit qu'on lâchait la garde, qu'on ne protégeait plus les Français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une addiction au mot « urgence », même si effectivement le prix à payer de cela, c'est aussi qu'il y a quelque chose d'angoissant, d'anxiogène au fait d'être en état d'urgence. Là, même chose pour l'état d'urgence sanitaire. On a eu un état d'urgence 23 mars avec une phase de confinement qui est extrêmement attentatoire aux libertés. Mais là, on est dans le déconfinement, donc dans des mesures qui sont plus légères et qui sont différentes selon les régions françaises, avec très peu de différences d'ailleurs. Mais on est encore dans l'état d'urgence. Quand on déconfine, comment peut-on rester dans un état d'urgence de retrait d'une politique qui conduisait à mettre en cause des libertés? Donc il me semble que le terme d'urgence ou le terme d'état d'exception aujourd'hui a une performativité, je dirais, de type psychologique, de type communication politique qui va bien au-delà de la question strictement juridique.
Alors vous parlez de drogue pour évoquer justement cet effet performatif que peut avoir l'idée d'état d'urgence. Mais François Saint-Bonnet, cette drogue, donc si j'ai bien compris, vous considérez qu'elle est plutôt prise comme telle du côté du grand public, des citoyens. Mais est-ce que ça peut pas être le cas également du côté du pouvoir politique? Est-ce que ça n'est pas plus facile de gouverner quand on a à sa disposition, même si on ne les utilise pas toutes et pas sur toute la durée de l'état d'urgence, si on a à sa disposition un certain nombre de mesures dérogatoires? Ça peut être extrêmement tentant que de les conserver, ces mesures-là.
C'est effectivement la mentalité, je dirais, du monde de la sécurité, c'est-à-dire de se dire que, eh bien, qui peut le plus peut le moins, et donc si j'ai à ma disposition énormément de moyens d'action, alors, eh bien, je pourrais très bien me permettre de ne pas les mettre en œuvre. Le problème, c'est que cette conception-là, si on la considère comme valide et si on n'est pas du côté des libertés, eh bien, on va tout droit effectivement vers un État autoritaire qui va dire, eh bien, j'ai tous les moyens du pouvoir autoritaire et vous voyez bien, je ne suis pas autoritaire parce que je ne les mets pas en œuvre. Donc effectivement, le mécanisme démocratique sur le plan des contre-pouvoirs juridiques et politiques, eh bien, c'est d'inviter le pouvoir à faire avec ce qu'il a. Et il faut que ce qu'il ait soit limité. Et d'ailleurs, on voit bien que de temps à autre, quand il veut réintroduire une loi d'urgence en 48 heures, il le peut. Donc il faut sortir des états d'urgence de manière générale, très vite, et il faut absolument pas s'habituer à ça. Vous avez tout à fait raison d'inviter vos auditeurs et la société française à cette vigilance-là, parce que, du point de vue des citoyens, il y a une accoutumance, mais il y a aussi, du point de vue du pouvoir, une facilité. Je crois que c'est tout à fait net.
Et cette accoutumance et cette facilité, on a pu l'avoir à l'œuvre après les attentats de novembre 2015, François Saint-Bonnet. L'état d'urgence est décrété tout de suite après les attentats, dès le 13 novembre au soir. Il va falloir attendre 2 ans pour que cet état d'urgence soit levé, ce qui est très long. Et par ailleurs, il est levé à travers une loi, la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui va inscrire un certain nombre de mesures dérogatoires dans le droit commun. Est-ce que ça n'est pas un peu une règle qu'on retrouve dans les différents moments d'état d'urgence, c'est-à-dire que finalement certaines mesures qui n'étaient que censées être temporaires, qui finissent par être inscrites dans le droit commun, peut-être parce que ça rassure les citoyens, mais aussi peut-être parce que ça arrange ceux qui nous gouvernent.
Les deux sont vrais et je vais vous raconter une chose qui est assez singulière sur la séquence 2017. Le ministre Gérard Collomb, essayant d'expliquer, et en particulier à la droite qui s'y opposait, essayant d'expliquer que effectivement la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, donc la loi SILT, celle qui permettait de sortir de l'état d'urgence tout en adoptant dans le droit commun les mesures de cette loi, pour rassurer la droite et pour pouvoir dire que, eh bien, il ne baissait pas la garde, le ministre a dit cette chose tout à fait extraordinaire. Écoutez, si toutefois nous avions un nouvel attentat, je n'hésiterais pas un instant à revenir dans l'état d'urgence. Or, l'état d'urgence ne lui permettrait pas la moindre mesure supplémentaire que ce qu'il avait déjà dans cette loi du 30 octobre 2017. C'est vous dire à quel point le mot urgence, alors que là, il ne s'agissait absolument de ne rien changer du point de vue juridique, eh bien, le mot urgence était utilisé de manière un petit peu magique. Mais pour revenir de manière plus générale sur, je dirais, l'état d'exception permanent ou l'introduction des mesures d'urgence dans le droit commun, je crois que il faut prendre en considération le fait que l'état d'urgence, traditionnellement, c'est un mécanisme de contrôle de zone, c'est-à-dire ça consiste à boucler une zone et de faire en sorte que les gens qui sont dans cette zone, les séditieux, hein, les rebelles, soient maîtrisés. Donc c'était une loi qui avait une vocation essentiellement spatiale. Et donc, comme l'espace est réduit, le temps de l'état d'urgence, lui aussi, était relativement limité. La loi de 1955, à partir de 2015, est devenue une loi non plus spatiale, mais une loi antiterroriste, c'est-à-dire une loi qui consistait non pas à permettre de contrôler des zones, même si c'était toujours possible, mais elle est devenue progressivement une loi qui permettait la surveillance de gens que nous considérerions ou que le pouvoir public considérait comme dangereux. Et donc, comme cette loi a quitté cette dimension spatio-temporelle réduite, eh bien, elle est devenue une loi qui pouvait s'étendre dans le temps. Mais le problème, c'est que continuer à appeler loi d'état d'urgence quelque chose qui n'est plus lié à une urgence, parce que la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine et qui occupe d'autres moyens que les moyens territoriaux, eh bien, il me semble que c'est là encore une sorte d'abus de langage. Et donc, il faut regarder en face. Est-ce que telle ou telle loi est efficace pour lutter contre le terrorisme, oui ou non, et évaluer tout cela. Mais utiliser le mot d'urgence me semble être quelque chose de tout à fait inadapté. J'ajoute dernier point, peut-être que la loi sous l'empire de laquelle nous vivons en ce moment, c'est-à-dire celle du 23 mars 2020, a été une loi d'urgence, une loi d'état d'urgence rédigée dans l'urgence, c'est-à-dire une loi qui a été rédigée à la va-vite, en quelques heures ou quelques jours, et qui a été adopté pratiquement sans débat, là encore, en quelques heures ou quelques jours. Et il n'est jamais très très bon d'avoir des mesures d'urgence qui sont débattues dans l'urgence.
Alors je voudrais justement qu'on aille sur cette question de la façon de contrôler le poids que peuvent avoir les contre-pouvoirs par rapport à ces lois d'état d'urgence, et en l'occurrence celle qui nous concerne en ce moment. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de cet état d'urgence, l'exception qui confine la règle en votre compagnie, François Saint-Bonnet, vous êtes historien du droit, professeur d'université à Paris 2, Panthéon, Assas. Cette notion, effectivement, d'urgence, elle n'est de toute manière pas compatible avec un examen apaisé qui prend le temps nécessaire pour savoir ce qu'il est bien de mettre en œuvre ou pas. C'est-à-dire que de toute manière, en soi, il y a une contradiction dans le fait de vouloir assurer l'ensemble des contre-pouvoirs dans un moment d'urgence. Est-ce que vous considérez, vous, en tant qu'historien du droit, que les institutions, par exemple, de la Ve République permettent quand même plutôt bien de surmonter cette contradiction, ou bien est-ce que ça n'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu aussi des institutions et un régime politique qui s'est de plus en plus présidentialisé, est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à l'exagération de ce phénomène où tout vient finalement de l'exécutif et le Parlement n'est plus là que pour valider?
D'abord, il n'y a pas de fatalité aux choses. Si on prend un petit peu de recul historique, eh bien la loi de qui concerne l'état de siège, qui est toujours en vigueur, la loi de 1849 a fait l'objet en 1849 d'un débat extrêmement approfondi et d'un débat de très très grande qualité au sein de l'Assemblée de cette époque-là. Donc le fait de ne pas prévoir et le fait de légiférer dans l'urgence n'est pas une fatalité. Il peut aussi être astucieux, pertinent de prévoir les situation, ce qui n'a pas été fait là, donc en matière épidémique. Mais alors sur la Ve République, je dirais qu'effectivement c'est un peu particulier parce que on a depuis même avant le quinquennat un Parlement qui est assez largement une chambre d'enregistrement parce que il doit, en tout cas la majorité, doit sa légitimité au fait que le président a été élu. Et par conséquent, il y a quelque chose de l'ordre d'une intériorisation de la part du Parlement du fait qu'il doit se taire, ne pas trop discuter et rendre les services au président qu'il lui doit. D'ailleurs, on voit bien le rôle du Sénat depuis le début de cette séquence, même depuis 2017, un Sénat qui a un rôle beaucoup plus important que celui de l'Assemblée nationale. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que quand même, dans la première phase, je dirais la phase de mars, le Parlement a été extrêmement absent. Je dois dire que l'exécutif, est-ce dû au président de la République, au Premier ministre, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que l'un et l'autre ont considéré qu'il était important, notamment en termes de cohésion nationale, d'unité nationale, d'associer au maximum les assemblées parlementaires. Mais vous voyez, quand on dit les associer, c'est une façon de dire on veut bien vous entendre, mais de toute façon, la décision sera à peu près la même. Mais quand on voit l'utilisation qui a été faite, en particulier au moment du déconfinement, le gouvernement n'était pas tenu d'utiliser l'article, vous savez, 50-2 de la Constitution, c'est-à-dire une déclaration suivie d'un vote. Et Édouard Philippe a choisi de le faire. On lui a reproché de faire le vote dans la foulée plutôt que le lendemain. Bon, peu importe, mais n'empêche que ça a été fait. Donc là, je dois dire qu'il faut peut-être être plus précis et séquencer un petit peu plus précisément. Je dirais que fin mars, le Parlement était vraiment une chambre d'enregistrement et que depuis, eh bien, on attend de lui qu'il soit un facteur de cohésion nationale plus important.
Alors vous le savez, François Saint-Bonnet, la France n'est pas évidemment le seul pays à avoir été confronté à cette urgence liée au coronavirus. La plupart des pays du monde, d'ailleurs, ont eu recours à de telles mesures face aux conséquences de l'épidémie. Des mesures, Antoine Dulster, qui en disent parfois assez long sur l'état de santé démocratique des pays concernés.
Oui, Hervé, une santé pas toujours éclatante, à en juger par les débats souvent très durs qui agitent les classes politiques. En Europe, sans surprise, les mesures d'urgence ont réactivé des tensions territoriales, parfois identitaires, entre régions. Ce fut le cas en Espagne. L'état d'alerte décidé par Madrid a été contesté par les séparatistes catalans. Le président de la région autonome, Quim Torra, a même dénoncé une recentralisation déguisée. Tension réactivée aussi en Italie, où, malgré une grande solidarité nationale, les gouvernements des régions ont défendu bec et ongle leurs compétences locales dans l'application des directives nationales. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que les mesures d'urgence sanitaire ont révélé des dysfonctionnements peut-être plus graves dans les nombreux cafouillages entre les niveaux de gouvernement, en particulier chez les deux géants du continent américain, les États-Unis et le Brésil. Deux États fédéraux dirigés par des présidents que l'on peut qualifier de populistes. Jair Bolsonaro, comme Donald Trump, ont certes eu recours à différents niveaux d'état d'urgence ou d'état de calamité au niveau fédéral pour lutter contre la crise sanitaire, mais avec une attitude très ambiguë, en prenant position publiquement pour alléger le confinement afin de limiter les dégâts économiques et en utilisant même le registre de la provocation ou de la désinvolture. Si bien que dans ces deux pays, ce sont les gouvernements locaux qui ont pris les mesures les plus contraignantes pour les libertés publiques. Du point de vue des citoyens, le message est forcément brouillé. Difficile de s'y retrouver si le chef de l'État et les gouverneurs ne parlent pas le même langage.
Oui, mais alors Antoine, en quoi est-ce que c'est révélateur d'un problème démocratique ?
Eh bien parce que ce message envoyé à l'opinion publique est désastreux. On laisse penser qu'une déclaration d'état de calamité ou d'état d'urgence, y compris dans leur dimension solennelle, n'ont pas vraiment de conséquences concrètes dans la vie des citoyens. Ces dispositifs deviennent des instruments de la politique politicienne et c'est bien là que l'on peut mesurer la crise politique qui touche ces deux pays. Revenons en Europe. Même si la figure de la comparaison avec l'Allemagne est devenue très convenue, et même si la culture politique de ce pays est très particulière, regardons tout de même ce qui s'est passé outre-Rhin pendant cette crise. L'état d'urgence n'a pas été déclaré au niveau fédéral. La chancelière Angela Merkel a préféré se passer de cet outil qui lui était pourtant permis par la Constitution. Les mesures sanitaires adoptées dans le pays relevaient donc du droit ordinaire. Au niveau local, seule la Bavière, le land le plus touché par l'épidémie, a eu un recours à un état d'urgence. Et à la fin, on ne sait pas si c'est l'Allemagne qui gagne, comme le dit le dicton, mais le pays affiche l'un des meilleurs bilans en Europe de la gestion de cette crise sanitaire. Preuve que les procédures d'exception sont bien utiles en démocratie, mais à condition de les utiliser avec gravité et avec parcimonie.
Merci beaucoup Antoine. François Saint-Bonnet, un tout dernier mot. Antoine Dulcert le disait, voilà, il faut les utiliser, ces mesures d'urgence, avec gravité et parcimonie. L'état d'urgence sanitaire doit s'achever le 10 juillet prochain. S'il devait être prolongé, est-ce que ça poserait un problème selon vous ?
Ça poserait un problème très important parce que de nouveau, on serait dans une logique de maintien de l'urgence en dehors de la phase d'urgence. Je crois qu'il faut absolument que nous passions dans une phase qui est déjà d'ailleurs en œuvre depuis le début, qui est une phase d'authentique civisme. En réalité, hein, si on avait voulu assigner à résidence 67 millions de Français, il aurait fallu un gouvernement autrement plus autoritaire que celui que nous avons et des moyens de l'État autrement plus conséquents. La réalité, c'est que 98 ou 99% des Français respectent les règles prophylactiques, tout simplement parce que ils sont convaincus de leur utilité pour eux et pour leurs prochains, pour autrui. Par conséquent, il me semble que il faut inviter les Français, et c'est ce que fait le gouvernement, à entrer dans un esprit de responsabilité, une sorte d'accoutumance des gestes barrières, et puis tout simplement dire, voilà, la phase d'urgence est complètement terminée. Maintenant, nous allons devoir vivre avec un risque sanitaire pendant des mois, peut-être des années. Nous allons nous y habituer, nous allons surmonter ça, en tout cas maintenir cette logique d'état d'urgence et, je crois, d'infantilisation qui l'accompagne, serait tout à fait funeste.
Merci beaucoup François Saint-Bonnet d'avoir été notre invité pour ce retour de politique au temps du confinement, enfin plutôt du déconfinement. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Assia Arlid, avec à la prise de son Stéphane Poitevin. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous retrouve lundi pour la transition dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner. Et dans un instant, c'est le journal de 12h30 sur France Culture.